Cube Radio.
Dutrisac, un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Alexandre Dubé est avec nous pour les nouvelles du jour. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît, bon jeudi.
D'abord, le bilan COVID du jour. C'est comme le menu du jour au restaurant à l'époque.
Hein? Oui, ben exactement. C'est ça, c'est notre version adaptée de tout ça. T'as tout compris. Encore aujourd'hui, on est au-delà de la barre des 1000 cas, 1033.
Ah ouais.
On s'approche, si on regarde un peu l'horizon, là, moi j'ai l'impression que si c'est pas en fin de semaine, en début de semaine prochaine, on va franchir là, le seuil des 100 000 cas au Québec. On est à 97 320. 21 cas. Ce qui frappe le bilan, par exemple, aujourd'hui, Benoît, c'est vraiment au niveau des décès. Là, c'est 20 décès supplémentaires, dont 8 qui sont survenus dans les 24 dernières heures. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a une baisse dans les hospitalisations. On est à moins 12 pour un total de 553. Par contre, ça augmente aux soins intensifs avec 7 de plus pour un total de 101. Au niveau des cas, ça reste élevé à Montréal. On est à tout près de 300. Ça baisse en Montérégie, ça baisse à Québec également, ce qui est une bonne nouvelle. Et je te parle des cas et des tests. Là, encore une fois, on a réalisé 26 000 tests dans cette période-là. Et là, ça a été annoncé ce matin, Québec qui va mettre en place une nouvelle solution technologique, si tu veux, pour accélérer le processus de dépistage des cas de COVID. Ça va être effectif dans un horizon d'à peu près 6 à 8 semaines. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ben, on va pouvoir se rendre au québec.ca/coronavirus pour d'abord remplir un questionnaire, OK? Avant de prendre notre rendez-vous pour un éventuel dépistage. Si en remplissant le questionnaire, ben, ça indique effectivement qu'on devrait passer le test et qu'on peut-être effectivement avoir été en contact avec des gens, ben, les informations recueillies vont servir de base pour la réalisation des enquêtes épidémiologiques. Et cette façon de faire-là, ça permettrait de libérer des milliers d'heures chez les professionnels de la santé pour qu'ils s'occupent de tâches cliniques plutôt que des tâches administratives. Là, plutôt que qu'on joue dans le papier, là, qu'on soit concrètement sur le plancher. Il y a un contrat de 12,4 millions d'une durée d'un an qui a été offert de gré à gré à la firme Deloitte pour déployer ce processus-là, ce programme-là. Alors, il y a des cliniques qui font l'objet d'un projet pilote, si tu veux, actuellement, une dans le nord de l'île de Montréal, l'autre dans la région de la capitale nationale. Et d'ici à 8 semaines, cette solution-là va être utilisée dans toutes les cliniques de dépistage du Québec. C'est une bonne nouvelle aussi dans les circonstances. Reste à voir si, à 13h cet après-midi, on aura d'autres bonnes nouvelles. Il y a le premier ministre François Legault qui a convoqué la presse pour un point de presse là-dessus. On sait que dans certaines régions, la situation s'améliore quand même. C'est le cas du Bas-Saint-Laurent, où on est passé à peu près, quand tu regardes ça, de pire à mieux, tu sais, de pire à moins pire. Maintenant, on fait partie des bons élèves. Est-ce qu'on assisterait à éventuellement un changement de couleur? Il me semble que ça nous ferait du bien.
Hey,
là-bas, ils sont en orange, mais il me semble que ça ferait du bien. Juste un petit encouragement.
Ouais.
Mais une chose est sûre, en tout cas, on va être fixé à 13 heures. Si d'autres régions ont basculé dans le rouge, c'est le cas de toute la Mauricie, entre autres, là, hier. Dans certaines régions, ça va mieux. Et il faut quand même s'encourager un peu.
Je prendrais le brun, moi, comme couleur.
Le brun?
Ouais, juste le brun. Juste le brun qui a de la terre.
On
là,
est dans
que...
à trois petits points.
Bon, il y a une grave éclosion en Montérégie. Où ça, en Montérégie?
Ouais, c'est dans un CHSLD, le CHSLD Sainte-Croix à Marieville. Là-bas, là, 80 cas au moins d'infection chez les résidents et les membres du personnel, selon les informations de nos collègues de TVA Nouvelles, à un point tel que là, le 6 Montérégie Centre a confirmé certains cas, là, 37 chez les résidents, 13 décès, d'autres cas actifs chez le personnel. Là, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis en place un dépistage massif, on a renforcé les équipes médicales pour essayer de restreindre l'éclosion. Qu'est-ce qui a causé ça? Pour l'instant, on ne sait pas, mais le syndicat s'inquiète, avec raison, là, de ce qui se passe, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On sait, les travailleurs de la santé sont fatigués. On les a vus manifester cette semaine.
Ouais.
Qu'est-ce qui va arriver en fin de semaine? Est-ce qu'il y aura bris de service? Parce qu'ils ne veulent pas faire de temps supplémentaire. Bref, à l'échelle québécoise, on verra bien. Mais localement, là, au CHSLD Sainte-Croix, ça préoccupe. Souvenons-nous que pendant la première vague, l'établissement avait été épargné là, par la COVID. Il n'y a aucun cas qui a été déclaré. Là, c'est très, très, très difficile. Ça va dans le sens aussi de ce qui a été véhiculé ce matin au Québec, là, dépêche maintenant des équipes, une espèce de SWAT, là, dans certains CHSLD, dont celui-là. Quand des établissements atteignent, si tu veux, un palier rouge, là, souci un col de couleur, là, ça veut dire que 25% à peu près des résidents sont atteints de la COVID, et c'est le cas là-bas.
Eh ben, en tout cas, il y a aussi le collectif Action COVID, là, dont le porte-parole est Dr Régent Hébert, qui est gériatre. Je pense que la santé publique aurait avantage à s'asseoir puis entendre les propositions de ce collectif-là qui je pense, aiderait un peu, là, parce que là, moi, je crains ce qui s'en vient, Alexandre, là, dans les CHSLD.
Ben, c'est sûr qu'on craint ce qui s'en vient. On veut pas personne revivre ce qui est arrivé. Puis, tu sais, parlant de revivre ce qui est arrivé, il y a une résidence qui avait retenu l'attention le printemps dernier pour les mauvaises raisons. C'était la résidence de l'Éden, hein, à Laval.
Ouais,
ouais. Là, on apprend que le CIS va pas renouveler l'entente de service avec cette résidence-là pour aînés. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est de déménager l'ensemble des résidents.
Oh boy.
Si le 31 mars, aussi c'est un bouleversement, il y aura 82 usagers qui vont être dirigés vers d'autres milieux de vie du côté de Laval et à la résidence l'Éden, depuis la fin de la première vague, on opérait à 53% de la capacité, mais on se souviendra là, que la résidence l'Éden avait été montrée du doigt pour toutes sortes de problèmes de négligence, de maltraitance envers les aînés, et elle avait été mise sous tutelle au printemps dernier, et à l'époque, 52 résidents avaient perdu la vie. 52.
Bon, la campagne de vaccination, Alex, contre la grippe, ça commence seulement le 1er novembre.
Ça commence dans à peu près une dizaine de jours, mais déjà, c'est vraiment très, très populaire. Hein. Selon ce qu'on lit dans Le Devoir ce matin, dans plusieurs régions, là, Benoît, il y a des plages horaires pour les clientèles plus vulnérables qui se remplissent très, très, très rapidement. À Montréal, il y a des cliniques de vaccination qui affichent déjà complet. Il n'y a pas de rendez-vous disponible dans les CIUS de la métropole. Au moment où on se parle, il n'y en a pas. Est-ce qu'on rajoutera des plages horaires? Je l'espère. On évalue la possibilité d'augmenter certaines plages horaires, question de faciliter l'accès au vaccin. C'est un engouement qui est fort à Montréal, qui est fort à Laval, fort en Montérégie aussi. On sait que ce sont des régions qui sont très touchées par la COVID. Et on a commandé davantage de doses cette année contre la grippe saisonnière. On parle de 25% plus de doses qu'à l'habitude, là, que l'an dernier.
Bon, alors moi, je sais que j'ai essayé d'aller me faire vacciner au plus sacrant, puis tout le monde t'a dit non, pas avant le 1er novembre. C'est quand même particulier en temps de pandémie, il me semble que, tu sais, c'est comme les piscines municipales, là, en pleine canicule, tu dis non, ils sont fermés, la bureaucratie a décidé que ça fermait. C'est assez particulier.
Si on est déjà en possession des doses, effectivement, que ça aurait pu être assoupli un peu dans le contexte.
Ben, il me semble. Tu sais, pour l'Halloween, tu y vas déguisé. Ça changerait. Cri du cœur des restaurateurs, on leur a parlé à 10h30,
oui,
Jean
oui.
Bédard. Puis vraiment, là, je trouve que l'industrie pose de bonnes questions.
Oui, parce que, tu sais, quand tu regardes ça, là, puis c'est vrai que son point de vue est intéressant, tu sais, quand tu fermes un restaurant, ce sont des pertes incroyables, juste en nourriture, là, OK? Tout ce qui est dans le frigo, tout ce qui est périssable, là, oublie ça, tu sais, faut que tu le donnes, j'espère, à des organismes de charité, des choses comme ça, mais quand même, là, pour le restaurateur, c'est une perte nette, là, là-dessus, là, tu sais, tu pourras pas tirer du profit de ça, là, tu sais, mis à part peut-être pour ta conscience sociale. Quand tu repars un restaurant, c'est des coûts aussi. Fait que, tu sais, de jouer au yo-yo constamment pour les restaurateurs, pour les employés également de ces restos-là qui, là, vont travailler après ça, sont renvoyés à la maison temporairement, des mises à pied temporaires. T'sais, qu'est-ce qui se passe t'sais, dans un endroit où, je sais pas si tu as vu passer ça, ce sondage-là, qui dit à peu près un Québécois sur deux envisage changer d'emploi. Là, tu te dis, tu te poses de grandes questions pour ton futur. Alors, ce sont des restaurateurs qui se disent épuisés, anxieux, sans ressources, des chefs de file de la restauration au Québec, comme M. Bédard à qui t'a parlé, qui réclament la réouverture de leur salle à manger dans les zones rouges. Il y a une lettre ouverte adressée au premier ministre François Legault, 40 signataires qui déplorent être toujours dans l'incertitude 3 semaines après le reconfinement. Alors que on parle beaucoup du défi 28 jours, ben là, la fin du mois arrive. Là. La fin du mois arrive pour les restaurateurs, mais la fin du mois arrive également pour nous tous, à savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'après le 28, on recommence à vivre dans une certaine normalité? Je pèse mes mots, parce que la pandémie, c'est pas, on peut pas se mettre les mains devant les yeux et dire que c'est fini, ça disparaît. Mais qu'est-ce qui se passe après? Moi, j'ai l'impression, si c'est pas dit aujourd'hui, dans les prochains jours, ça devra, je l'espère, être clarifié par le gouvernement du Québec.
Bon, ben certains, on va voir ça parce que c'est beaucoup d'emplois. Puis c'est aussi le, hein, c'est dur de les restaurants là, c'est très symbolique pour le style de vie des gens là, pour souffler un petit peu. Puis rapidement là, on a 30 secondes parce qu'il y a pas de nouvelles finalement à Ottawa.
Écoute, on s'en parlait hier. Est-ce qu'on va en élection? Est-ce qu'on va pas en élection? Une chance qu'on n'a pas parti l'autobus de campagne tout de suite, Benoît, qu'on n'a pas posé les affiches sur les poteaux non plus, parce que le NPD a choisi de voter contre la motion qui aurait pu faire ultimement tomber le gouvernement Trudeau. On sait que les libéraux avaient fait peser cette menace de scrutin-là, hein, en établissant qu'une motion sur l'affaire We Charity, c'était devenu une question de confiance, un vote de confiance envers le gouvernement. Alors, pas d'élection pour l'instant, mais, écoute, j'entendais le chef du Bloc, François Blanchet, là, ce matin, là, en point de presse, là, il accentue encore la pression sur Justin Trudeau. Les conservateurs ne lâchent pas le morceau. Alors, la tension est encore très, très vive à Ottawa. On n'ira pas en élection. J'aurais envie de te dire, on n'ira pas en élection pour l'instant.
Pour l'instant. Alexandre Dubé, merci. On se reparle demain.
À demain, Benoît.
Salut.
Bye-bye.